Toujours dans le même livre d'Exode, au chapitre 9, versets 13 à 35. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel, répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il » L'Éternel dit à Moïse « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron. » Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela ses sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible, il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert, et jusqu'à présent tu n'as pas écouté. » Voici ce que dit l'Éternel. « Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron. » Prends ton bâton et tends la main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tout réservoir d'eau. Elle deviendra du sang. Il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve était infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau, et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs sortilèges. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire l'eau du Nil. Et un petit peu plus loin, donc, au chapitre 9, les versets 13 à 35. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareil en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. » Les serviteurs du Pharaon, qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. » Moïse tendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se mouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et il leur dit, « Cette fois-ci j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et mon peuple et moi nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Tout cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse.
Merci Géraldine. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. Donc, à la page 43. Alors, nous sommes de retour sur les planches du théâtre de l'Égypte. Et cette semaine, nous allons assister à un spectacle extraordinaire. Cet spectacle en 11 temps. Et la question que l'on peut se poser dès le départ est de savoir pourquoi Dieu avait besoin d'envoyer autant de fléaux, autant de plaies. Pourquoi est-ce qu'il y en a 10? À quoi ça sert? Ça fait des lectures longues le dimanche matin. On a l'impression que Dieu se répète. Dieu se réfère à ces plaies en parlant de signes et de miracles. Dieu est en train de donner des signes. Et des signes sont là pour communiquer quelque chose, pour faire passer un message. Dieu avait quelque chose à dire aux Égyptiens, aux Israélites et au monde tout entier par ces signes terribles. Alors le thème de la révélation de Dieu, cette révélation par laquelle Dieu se dévoile, est un thème majeur de ce livre. Alors vers la fin du livre de l'Exode, Moïse raconte comment Dieu descend dans une nuée et proclame le nom de l'Éternel, le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Alors notre passage de ce matin s'inscrit dans cette auto-révélation. Nous allons faire meilleure connaissance avec le Seigneur, le Dieu qui est et le Dieu qui sera. Il faut savoir que cette révélation n'est jamais purement intellectuelle. Dieu se révèle en vue d'une relation personnelle. Dieu veut cheminer avec son peuple. Il veut que son peuple le connaisse et le serve. C'était vrai pour les Israélites et c'est encore le cas ce matin. Dieu veut se révéler par ce passage en vue d'une relation personnelle, de confiance, de service et d'adoration. Mais qu'est-ce que Dieu veut bien communiquer par ces 10 fléaux? Et à qui est-ce qu'il destine ce message? Alors la première chose à dire, la première chose qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu veut montrer la grandeur de sa puissance. Ces fléaux, ces plaies constituent une démonstration de sa force écrasante. Alors au chapitre 7, verset 5, au début de notre lecture de ce matin, nous lisons « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Je ne vais pas m'apesantir sur la défaite anglaise d'hier soir. Je vais plutôt parler des Néo-Zélandais. Mais sur l'image, on voit le haka. C'est une danse rituelle du peuple maori, interprétée à l'occasion de cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de partir à la guerre. Au match de rugby, il inspire la crainte et annonce la défaite imminente de l'adversaire. L'adversaire ne doit pas les sous-estimer. Et Dieu tient à ce que le peuple d'Égypte, son adversaire, le connaisse et le craint. Il va le connaître de par sa force écrasante, de par ce haka céleste qui dépasse bien sûr de loin ce haka néo-zélandais. Alors plus loin au chapitre 9, au verset 14 à 15, Dieu dit au sujet du Pharaon, « Cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si je t'ai intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Alors Dieu aurait pu régler la chose en un seul fléau. Mais il tient à ce que le Pharaon reconnaisse que c'est l'Éternel qui est le chef, qu'il n'y a personne qui soit pareil à lui sur toute la terre. C'est vrai, on n'aime pas trop le principe du pouvoir du plus fort. Cela peut nous sembler un peu injuste, un peu primaire. Mais quand le pouvoir est légitime, ça change tout. Alors Dieu enchaîne au verset 16 en disant au roi d'Égypte, « Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Dieu veut que sa puissance soit reconnue et proclamée de part et d'autre de cette terre. Parce qu'il veut que tout le monde le reconnaisse comme le maître, le chef, le vrai roi de la terre, le créateur de la terre. Au chapitre 10, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse ceci, « Va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quel signe miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » Dieu se soucie de sa réputation future, des enfants, des petits-enfants. Dieu veut qu'il sache qui il est, combien sa puissance est grande, et que c'est lui, le vrai chef, le vrai souverain de notre univers. Et dans un sens, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de ses enfants et de ses petits-enfants. Tout le monde est concerné. Dieu veut dévoiler sa puissance souveraine au grand jour, au vu et au su de tous. Alors certes, le premier signe se déroule derrière les portes closes. Le Pharaon a droit à une audience privée avec les porte-paroles du Seigneur. C'est le signe des serpents. Étonnamment, les magiciens arrivent à imiter ce signe par leur sortilège, même si le bâton d'Aaron engloutit les leurs, annonçant ainsi le vrai rapport de force. Mais ensuite, les signes éclatent au grand jour. D'abord, l'eau du Nil est changée en sang. Le Nil a été considéré comme un dieu par les Égyptiens, et qui était la source de la prospérité. Dieu montre sa puissance. Ensuite, des hordes de grenouilles envahissent le pays. Dieu dit, le fleuve pullulera ou fourmillera de grenouilles. Ce mot-là nous rappelle l'expansion de la population hébreu et israélite au début de l'Exode, chapitre 1. Ça nous rappelle aussi le récit de la création. Dieu voulait que cette planète pullule de vie. Mais cette fois-ci, cette multiplication semble plutôt néfaste, comme une anti-création ou une décréation, si vous permettez le néologisme. Ensuite, Dieu change la poussière en moustique. Et cette fois-ci, les magiciens ne peuvent plus suivre. Ils sont à bout de force. Le Dieu créateur les déclasse complètement. Et ce sont les sorciers égyptiens eux-mêmes qui disent « c'est le doigt de Dieu ». Les magiciens païens reconnaissent que c'est l'Éternel qui est le chef. Ensuite, l'Égypte est ravagée par des mouches venimeuses. En fait, une partie seulement de l'Égypte est touchée. Goshen en est épargnée, cette région où les Israélites vivaient, parce que Dieu est même maître des plans de vol des mouches. Ensuite, le bétail meurt, les ulcères prolifèrent, la grêle et le foudre s'abattent sur le pays. Les sauterelles réduisent à néant la végétation du pays. Et les ténèbres terrifiantes descendent sur le pays pendant 3 jours. Le dernier fléau sera le plus redoutable, la mort de tous les fils aînés. Et c'est ce dernier fléau qui va faire craquer le pharaon. Partiellement parce qu'il sera quand même têtu jusqu'à la fin. Voilà quelques tableaux que ce texte ont inspiré. L'eau du Nil changée en sang par Erastus Field. La mort du bétail par Turner. On ne voit pas très bien avec les lumières. Et la grêle. Dieu tient à nous montrer que c'est lui qui est le chef. Il tient à nous montrer sa puissance extraordinaire. La puissance du Créateur qui peut créer et qui peut défaire sa création, qui peut appeler à l'existence, et parce qu'il en est le propriétaire, il est le propriétaire légitime, il peut aussi appeler à sa destruction. Nous voyons cette puissance en Jésus-Christ. Lorsqu'il a fait taire le vent et la mer, ses disciples étaient saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Les signes de Jésus ont montré l'ampleur de sa puissante seigneurie. C'est lui le chef. Alors cette puissance déployée sur les planches du théâtre d'Égypte montre plusieurs choses à la fois, et 2 grandes choses en particulier, sans jugement et sans salut. Alors, abordez d'abord cette idée de jugement. Dieu montre qu'il est le chef puissant. Comment? En jugeant ses ennemis. En particulier dans ce texte, c'est le pharaon. C'est Dieu lui-même qui annonce la couleur, au chapitre 7, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. » La puissance qui va déferler sur les Égyptiens est en effet un jugement. Alors, dans un sens, nous avons déjà fait ce constat. Dieu se sert de sa puissance créatrice pour défaire, pour ruiner, pour maudire le pays d'Égypte. Force est de constater que notre culture n'apprécie guère l'idée de jugement, et encore moins l'idée que Dieu va nous juger tous. Alors, peut-être contrairement à d'autres époques révolues, notre époque est marquée par un esprit de liberté où chacun, individuellement, se croit autorisé à définir lui-même son code moral par lequel il veut vivre. Dans notre culture occidentale, le monde, la réalité morale doit s'adapter à nous et nos souhaits, et non pas l'inverse. Et du coup, l'idée qu'un Dieu puisse nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est louable, ce qui est condamnable, peut nous paraître comme une atteinte à nos droits fondamentaux. Je pense que le Pharaon avait une approche un peu semblable. Il a dit au chapitre 5, donc verset 2, on n'a pas lu ce texte, mais on l'a lu il y a 2 semaines. Le Pharaon a dit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Autrement dit, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est ma volonté qui prime. Mais si Dieu peut juger le Pharaon, c'est parce qu'il est son créateur. Et ses fléaux le montrent bien. C'est à la créateur que tout homme est redevable. Chacun de nous est redevable à Dieu, notre créateur. C'est le créateur qui fixe les limites, qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est louable, de ce qui est condamnable. C'est sa volonté qui prime. On sait bien que si on abolissait la gendarmerie et le système judiciaire en France, le pays sombrerait à toute allure dans le chaos et tout le monde en pâtirait. C'est parce que Dieu aime qu'il juge le mal. Il ne peut pas laisser passer le mal, la haine, l'injustice comme si de rien n'était. Le jugement de Dieu, tout comme il a été pour le peuple d'Israël, est en effet une bonne nouvelle. Dieu est juste. Dieu n'innocente pas le coupable. Dieu n'est pas l'ami du chaos. Alors parfois, les gens ont du mal avec l'idée d'un Dieu qui juge, parce que pour eux, en fait, un Dieu qui juge ne serait plus un Dieu qui aime. Et on veut un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Mais l'amour n'est pas le contraire de la colère, du jugement. Il n'est pas incompatible avec le jugement et la justice. Lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime, qui est maltraité, abusé, notre colère s'enflamme. À juste titre d'ailleurs, justement parce qu'on aime cette personne. En revanche, c'est l'indifférence qui est haineuse. C'est la haine qui est le contraire de l'amour. Et Dieu voit son peuple, qu'il aime profondément, maltraité aux mains d'un roi esclavagiste et génocidaire. Et il décide d'agir, de juger, de punir ceux qui font le mal. Mais Dieu est pourtant lent à la colère. Dieu est extrêmement patient. Ces versets que j'ai lus au début l'expriment bien. Et nous voyons sa patience dans la vie du Pharaon. Dieu aurait pu le détruire comme ça, dans un instant. Mais il lui donne avertissement sur avertissement, fléau sur fléau. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, de penser que Dieu est un peu injuste, parce que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur du Pharaon. Dieu l'annonce dès le début au chapitre 7, au verset 3. « J'endurcirai le cœur du Pharaon. » Il le redit à plusieurs reprises vers la fin de notre passage. Alors bien sûr, c'est jamais facile, en fait c'est impossible, de comprendre, de réconcilier parfaitement comment la volonté éternelle d'un Dieu éternel et souverain, comment cette volonté coexiste avec la volonté humaine. Ces deux volontés ne sont pas comparables. Alors Paul fait un rapprochement dans Romains 9, si vous avez envie de lire ce texte après. En tout cas, ce texte nous donne un exemple illuminant. En même temps, c'est un exemple triste, parce qu'il brosse un portrait si réaliste, si clairvoyant des cœurs des hommes et des femmes. Le Pharaon a déjà entendu la parole du Seigneur, et cela dès le chapitre 5. Mais il refuse de l'écouter. Il refuse d'obéir à la volonté de Dieu, car au bout du compte, il n'en a pas envie. C'est lui le chef. Les Israélites le servent, lui. Il veut garder les choses ainsi. Tragiquement, il pense que ce n'est pas dans son intérêt d'écouter Dieu. Nous voilà au cœur de l'homme. Voilà une attitude qui nous guette tous. Alors Dieu n'agit pas tout de suite. Il lui donne un premier signe. Et ensuite, le verset 13 du chapitre 7 nous dit que le cœur du Pharaon s'endurcit. Même chose après le premier fléau, le cœur du pharaon s'endurcit. Après le deuxième fléau, nous lisons que le pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écoute pas Moïse et Aaron. Dans un premier temps, le texte met plutôt en avant sa propre volonté. Son cœur s'obstina, s'entêta, s'endurcit. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, disait qu'il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu dit « Que ta volonté soit faite ». Dieu livre le pharaon à sa propre volonté, à sa propre rébellion contre Dieu. C'est ainsi que Dieu le juge. C'est ainsi que Dieu juge tous ceux qui ne veulent pas écouter sa parole, qui ne veulent pas de lui dans leur vie. C'est un jugement parce que en s'éloignant de Dieu dans la rébellion, les gens ne s'émancipent pas, mais tombent dans un cercle vicieux, déshumanisant. Ils succombent au tourbillon de l'égoïsme et de la folie, loin de la présence bienfaisante, rationnelle de Dieu. Et le pharaon y a déjà succombé. Même ses magiciens voient clair, c'est le doigt de Dieu. Ne sois pas si bête. Ses propres hauts fonctionnaires lui disent au chapitre 10, verset 7, « Laisse partir ces gens qui servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore l'Égypte court à sa perte ?» Mais le roi d'Égypte ne veut pas. Il s'enferme dans sa logique folle. Il s'aveugle, il n'est plus rationnel. Sa fierté ne lui permet pas de voir la réalité en face. Lui, il veut rester libre. Il veut faire ses propres choix. Il veut préserver sa propre gloire. Mais il n'est pas libre. Il n'est pas glorieux. Il est un esclave du mal. Notre désir de vivre à notre manière, sans l'ingérence de Dieu, est en fait une folie. Le péché est une folie. Quand les fléaux commencent à devenir de plus en plus sévères, le pharaon veut négocier avec Dieu. Il se met à manœuvrer. Comme si Dieu pouvait être acheté, ou comme s'il pouvait infléchir la volonté de Dieu. D'abord, il dit que les Israélites peuvent aller adorer Dieu, mais en restant en Égypte. Ensuite, seulement les hommes peuvent partir. Et ensuite, ils peuvent partir, mais sans le bétail. Il se met même à se repentir, à dire pardon. Mais sa repentance se révèle très rapidement comme fausse, insincère. C'est vrai qu'il est facile à se livrer à ce genre de manœuvre avec Dieu. Nous devons venir à Dieu selon ses termes et non pas les nôtres. Il veut toute notre vie. Le pharaon va rentrer dans le mur. Nous verrons dans deux semaines comment toute son armée sera écrasée. Et l'Égypte ne posera plus aucune menace militaire pendant 700 ans. C'est l'histoire d'une humiliation. Et Dieu veut que tout le monde la voie. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de voir ça des milliers d'années après ? Puisque le pharaon sert d'avertissement pour nous tous. Alors, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle du jugement dans ces termes très vifs et imagés. Donc Apocalypse 16, verset 1. « Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple » et disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu, colère, jugement. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais, donc ulcère comme dans les fléaux, et douloureux, frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent, comme dans notre passage de ce matin. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau et il devint du sang. Un peu plus loin, verset 10, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent Dieu, le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Et à la fin, verset 21, une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. L'apôtre utilise les images de l'Exode pour décrire ce jugement à venir. Ceux qui sont jugés comme le Pharaon ne changent pas d'avis. Ils persistent et signent. Il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu dit « Que ta volonté soit faite ». Dieu les livre à leur choix. Ils continuent, ils persistent et signent. Mais Dieu est lent à la colère. Il est patient. Il a beaucoup patienté avec le roi d'Égypte et il patiente encore aujourd'hui. Il appelle les hommes et les femmes à écouter sa parole et se mettre à l'abri, comme quelques-uns de ses hauts fonctionnaires égyptiens ont fait lors du fléau de la grêle. Peut-être que vous avez besoin de faire ça ce matin pour la première fois. Dieu nous implore à ne pas aller au bout de notre logique suicidaire, en lui montrant de manière on ne peut plus claire dans sa parole, dans la vie du Pharaon, à quoi cela aboutit. Alors, la puissance de Dieu qui est déployée dans ce passage nous montre également la puissance du Dieu qui sauve. Les Israélites de cette génération l'ont expérimenté de très près, et les Israélites qui ont entendu la lecture de ce passage, les enfants, les petits-enfants, ont dû s'émerveiller en pensant à tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dieu a été déterminé à sauver ce peuple. Et cette détermination est très claire tout au long de ce passage. Dieu commence en annonçant qu'il fera sortir d'Égypte ses armées, son peuple, les Israélites. Il le martèle à chaque fois au Pharaon. « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Ce peuple est l'objet du choix de Dieu. Nous l'avons vu la semaine dernière. Ce n'est pas que ce peuple est exemplaire, loin de là. Il en a marre de la médiation de Moïse. Il met en cause les paroles du Seigneur. Nous savons qu'il va se rebeller dans le désert contre Dieu. Toutefois, ce peuple est l'objet de sa grâce, de son choix. C'est Dieu qui est allé le chercher et le libérer. Dieu est un peu comme un chien de chasse qui poursuit sa proie. Il veut ce peuple-là. Il le montre encore et encore. Les fléaux différents et l'obstination du roi lui donnent l'occasion de le redire et le redire. Ce peuple n'est pas meilleur que d'autres peuples. Son péché, sa désobéissance, son incrédulité ne dissuadent pas Dieu pour autant. Ce n'est pas qu'Israël a choisi Dieu, mais que Dieu a choisi Israël. Et ça, c'est une réalité pour tout chrétien aussi. Si nous sommes à lui, c'est qu'il est venu nous chercher. Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est lui qui cherche comme un chien de chasse. Nous ne le cherchions pas. Et c'est lui qui nous sauve par sa mort sacrificielle, là où il a pris à notre place les fléaux que nous méritions. La réalité ultime, c'est que c'est lui qui est venu nous chercher. Même s'il y a une autre réalité dans nos vies, nous venons à lui et nous mettons à l'écoute de sa parole, nous mettons notre confiance en lui. Et ce texte le montre également avec ses hauts fonctionnaires qui ont fait justement cela. Alors comment devons-nous répondre à cette grâce, ce choix immérité? Si Dieu a choisi Israël, s'il a déployé sa force écrasante pour le libérer, c'était en vue de quelque chose. C'était en vue d'une relation avec lui. Dieu le dit encore et encore, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Alors, servir, cela veut dire plein de choses, mais adorer, vivre pour, vivre en relation avec, servir dans l'obéissance, donner toute sa vie à Dieu. Alors ce récit montre toute la toute-puissance de Dieu et la grandeur de son salut. Il nous rend humbles devant lui. Il nous donne la confiance dont nous avons besoin. Il nous rend reconnaissants à Dieu. Alors en guise de conclusion, lorsque l'apôtre Paul a fini de parler de comment Dieu nous a libérés puissamment en Jésus-Christ par sa mort à la croix. L'apôtre Paul nous exhorte en Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Il le fait en disant « Je vous encourage, donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alors que cela soit notre prière et notre réponse à la puissance salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père de ce que tu t'es révélé à nous dans l'histoire, dans cette histoire, lors de l'Exode, et de manière suprême en Jésus-Christ, à la croix, là où tu as battu, tu as vaincu tous nos ennemis. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à mieux comprendre ces choses, à mieux voir cette puissance, et de te craindre, Père, d'avoir une crainte sainte de ta puissance, de ta sainteté. Rends-nous humbles aussi. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent comme le cœur du Pharaon s'est endurci. Aide-nous, Père, à écouter ta parole, à nous humilier devant toi, à nous repentir sincèrement. Père, tu connais nos manœuvres, tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses. Et nous voulons te demander ce matin de nous donner le vouloir et le faire, de te servir cette semaine en nouveauté de vie, d'une manière qui te plaise, d'une manière qui montre toute notre reconnaissance pour ce que tu as accompli en Jésus à la croix pour nous. Au nom de Jésus, amen.
Merci Trevor.